16h précise, c'est l'émission Le Débrief qui commence à l'antenne du 107.9. Merci d'être à l'écoute, Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. Le mercure affiche présentement 9 degrés au centre-ville de Victoria. On envoie tout de suite les deux bulletins d'information de Denis Lépine. Ce sera suivi de la météo détaillée et du radiojournal de l'ONU. En fin d'émission aujourd'hui, je m'entretiens avec Marc Labelle du ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique à propos d'un programme de perfectionnement du français destiné aux adolescents francophones. Restez à l'écoute, cette interview sera diffusée vers 16h45. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Des données rendues publiques par l'Association canadienne de l'immeuble indiquent que les ventes résidentielles ont augmenté de novembre à décembre 2016 et ce d'un bout à l'autre du pays. Les ventes résidentielles ont augmenté de 2,2% de novembre à décembre. Les statistiques nous apprennent aussi que le prix de vente moyen au pays a grimpé de 3,5% de décembre 2015 à décembre 2016. Président de l'association Cliff Iverson a dit cependant s'attendre à voir un resserrement des règlements hypothécaires en 2017 qui pourrait ainsi contribuer à la baisse des ventes cette année. La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé publiera aujourd'hui la liste des hôpitaux, des organismes de soins de santé et des provinces qui se sont engagés à adopter ou qui ont déjà adopté des politiques sur la présence des familles, y compris l'abolition des heures de visite restreintes. La Fondation a déclaré dans un communiqué vouloir assurer l'inclusion des patients et des membres de leur famille lors de leur séjour à l'hôpital. Une étude de la Fondation en 2015 révélait que moins d'un hôpital canadien sur trois disposait de politiques de visite accommodantes. La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, profite aujourd'hui de son passage à l'OCDE pour discuter avec ses collègues des enjeux de santé d'intérêt commun. Il sera question, entre autres, de la résistance aux antimicrobiens, l'emballage neutre des produits du tabac et de l'obésité infantile. L'étiquetage alimentaire, la santé des Autochtones et les réformes de santé sont d'autres sujets qui pourraient être abordés. Dossier de la tuerie à l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride, bien Esteban Santiago Ruiz doit faire un passage en cour aujourd'hui. Il a déjà comparu une première fois devant la justice floridienne. Le ministère de la Justice des États-Unis a déjà mentionné dans un communiqué que l'individu de 26 ans demeurera en détention dans l'attente de son audience. La cour doit examiner une éventuelle remise en liberté sous condition. La 11e édition du Congrès national en développement de carrière Canexus aura lieu la semaine prochaine à Ottawa. Déjà, plus de 900 professionnels du développement de carrière ont confirmé leur présence. Ils discuteront des plus récentes recherches et approfondiront les sujets de l'heure dans le domaine. Plusieurs conférenciers prendront la parole. Il sera question aussi de faire le lancement de la toute nouvelle publication CERIC intitulée « Fidéliser et mobiliser ». La gestion de carrière dans les petites entreprises. Selon des données émises au Forum économique mondial à Davos en Suisse, eh bien les gens d'affaires canadiens estiment que leurs perspectives sont encourageantes même avec l'arrivée de l'administration Trump à la Maison-Blanche. Parmi les chiffres qui ont été annoncés, notons cependant que 59% des chefs de direction craignent de plus en plus les effets du protectionnisme dans le monde. Les changements technologiques et la menace qu'ils posent à la croissance semblent moins inquiéter les dirigeants canadiens dans 54% des cas contre 70% à l'échelle mondiale. La population canadienne sera appelée à se prononcer sur la modernisation de l'Office national de l'énergie. Jim Carr, ministre des Ressources naturelles, avait annoncé dernièrement la mise sur pied d'un groupe de 5 experts mandatés pour recommander au gouvernement canadien des moyens de moderniser l'office. À compter du 25 janvier prochain, eh bien le comité se rendra dans 10 villes canadiennes pour prendre le pouls de la population. Parmi celles-ci, notons Toronto, Vancouver, Winnipeg, Montréal et Ottawa. Les rencontres prendront fin le 29 mars. Publication du 12e rapport d'étape vers le développement minier durable de l'Association minière du Canada. Le rapport présente les résultats de 62 établissements de 22 sociétés minières en 2015. Le document révèle qu'une proportion de 86% des établissements ont mis en place un plan de gestion des crises, tant au niveau de l'établissement que de l'entreprise, comparativement à 83% en 2014. Au sport au hockey, dans la Ligue nationale, victoire de Détroit 1-0 contre Montréal. San Jose a eu raison de Winnipeg 5-2 et Edmonton 3, Arizona 1. Mentionnons également cette victoire spectaculaire des Penguins de Pittsburgh en prolongation 8-7 contre les Capitals de Washington. Ce soir, Buffalo sera à Toronto, Vancouver recevra Nashville, Ottawa sera à Saint-Louis et la Floride à Calgary. NBA ce soir, Toronto sera Brooklyn et au tennis Omnium d'Australie, Milos Raonic a remporté son match de première ronde. Même scénario pour l'Américaine Serena Williams.
Vous aurez reconnu Denis Lépine qui nous livre tous les jours son bulletin quotidien d'information. Nous avons à 16h05 minutes 8 degrés au centre-ville de Victoria. Bienvenue dans l'émission Le Débrief. Faut que vous soyez à la maison, au travail ou en voiture. On va jeter un petit coup d'œil à la météo. Alors 8 degrés, je le disais, de la pluie sur le sud de l'île actuellement, même de la pluie assez intense du côté de Mauthausen, de Colwood et sur le tronçon Malahat de la Transcanadienne en direction de Nanaimo. Victoria est quand même assez épargnée. Il y a quelques gouttes qui tombent, bien sûr. Ce sera intermittent au cours des prochaines heures. Donc le maximum cette nuit, 7 degrés. Pluie intermittente, comme nous l'indique Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca. Demain, mercredi 18 janvier, 9 degrés, encore des températures auxquelles on n'était plus habitué. C'est beaucoup plus doux. Donc 9 degrés au mercure demain avec une probabilité d'averse de 70%. Et ça se poursuit ainsi dans les journées suivantes. Donc jeudi 19, 8 degrés avec des averses. Vendredi 20 janvier, 7 degrés avec des averses également. Donc voilà, pour les détails, météo.gc.ca. Donc l'info se poursuit dans l'émission Le Débrief. Merci d'être avec nous à l'antenne de CILS FM 107,9. On va tout de suite écouter le bulletin des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. En titre, le Conseil de sécurité examine la situation au Moyen-Orient. Le PAM interrompt ses opérations de largage à Deir ez-Zour en Syrie en raison des conditions sécuritaires. Forum de haut niveau contre la discrimination envers les musulmans. L'UNESCO lance un nouveau rapport dénonçant le harcèlement scolaire. Et en dossier, coup de projecteur sur le nouveau rapport économique mondial de l'ONU. Moins de mois après la condamnation par le Conseil de sécurité de la construction de colonies de peuplement en territoire palestinien occupé, le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient a souligné ce mardi que l'adoption de résolutions et de communiqués ne permettra pas à elle seule de réaliser une paix durable dans la région. Devant les 15, Nikolaï Mladenov a appelé à l'action, soulignant que l'échec des dirigeants des deux parties à inverser l'actuelle trajectoire négative condamnera autant les Israéliens que les Palestiniens à vivre piégés dans un cycle perpétuel de violence. Intervenant par vidéoconférence depuis Jérusalem, Nikolaï Mladenov s'est aussi inquiété de l'augmentation des tensions à Gaza. On l'écoute.
Je suis particulièrement préoccupé de la répression par le Hamas des récentes manifestations pacifiques à Gaza. Après que 2 millions de Palestiniens se sont retrouvés avec seulement 2 heures d'électricité par jour en plein hiver. Si la crise de l'électricité a pu être évitée dans l'immédiat, grâce à l'appui généreux du Qatar, les autorités responsables doivent trouver une solution durable, à long terme, pour résoudre les pénuries chroniques en électricité. Il y a aussi eu des évolutions positives. Israël a augmenté l'entrée ces dernières semaines de matériaux de construction critiques, mais les fonds des donateurs destinés aux abris demeurent trop faibles. L'écart actuel de 300 millions de dollars pour la reconstruction est bien trop élevé. Et moins de la moitié des 3,5 milliards de dollars promis il y a 2 ans et demi à la conférence du Caire a été déboursé.
En en Syrie les combats qui se déroulent dans plusieurs quartiers de la ville de Deir ez-Zor, située dans l'est du pays, ont forcé le PAM, le Programme alimentaire mondial, à suspendre ses largages aériens d'aide humanitaire. Le PAM, qui a lancé ses opérations de largage dans la région en avril dernier, a estimé que la situation était devenue trop dangereuse pour ses partenaires humanitaires sur le terrain, chargés de recevoir et de distribuer ses approvisionnements. Les précisions de Bettina Löscher, porte-parole du PAM à Genève.
Des combats intenses se déroulent à l'intérieur et autour de la zone d'atterrissage et dans les parties de la ville où les distributions de nourriture ont lieu. Et les partenaires du PAM sur le terrain ne peuvent tout simplement pas exposer la vie des 60 volontaires qui se trouvent dans cette zone d'atterrissage et reçoivent ces approvisionnements et les distribuent. Nous effectuons ces largages depuis avril dernier. Nous avons effectué 177 largages sur Deir ez-Zor jusqu'à présent, au profit d'environ 110 000 personnes dans la ville. L'hiver est là. C'est un hiver terriblement froid et les gens sont désespérés. Plus de 5 ans de combat et les gens sont toujours coupés de tout. Donc, une fois de plus, pour la énième fois, laissez-nous accéder, laissez-nous faire notre travail. C'est important.
Un forum de haut niveau contre la discrimination envers les musulmans se déroule ce mardi au siège de l'ONU à New York. Ce forum est l'occasion d'évoquer la portée et les défis croissants de la discrimination et de la haine anti-musulmane dans divers contextes, ainsi que de partager les meilleurs outils pour les combattre. Des représentants de gouvernement, de la société civile et du secteur privé sont parmi les panélistes de cet événement organisé par le Canada, les États-Unis, l'Organisation de la coopération islamique et l'Union européenne. Autre message rassembleur, celui du secrétaire général Antonio Guterres, qui a été parmi les premiers partagés.
Comme le Coran le proclame, les nations et les tribus ont été créées pour que les hommes se connaissent les uns les autres. Comme les sociétés sont de plus en plus marquées par la diversité ethnique et religieuse, nous devons investir dans la cohésion, tant sur le plan politique que culturel et économique, afin que la diversité soit considérée, à juste titre, comme une richesse et non comme une menace. Pour promouvoir le respect, la sécurité et la dignité de tous, l'Organisation des Nations Unies a lancé une campagne intitulée « Ensemble ». Ensemble, dressons-nous contre l'intolérance et pour les droits de l'homme. Ensemble, nouons le dialogue. Ensemble, transformons la peur en espoir, pour nos frères et sœurs musulmans et pour toute l'humanité.
Nous avons tous été témoins du harcèlement d'enfants en milieu scolaire. Selon un nouveau rapport de l'UNESCO, violence et harcèlement à l'école, rapport sur la situation dans le monde, il s'agit d'un phénomène répandu et nocif. Pour faire face à ce fléau, l'étude recommande que des mesures soient prises, notamment en renforçant la capacité de la direction des établissements à agir et en améliorant la sensibilisation et en impliquant les élèves et les adolescents. Florence Westergaard.
Des millions de filles et de garçons subissent des violences à l'école. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de l'UNESCO sur la situation dans le monde, présenté ce mardi à Séoul lors du colloque international sur les violences et les harcèlements à l'école. Christophe Cassol, de la section de l'éducation pour la santé et la citoyenneté mondiale à l'UNESCO.
Dans le monde, il y a 246 millions de cas de violences seulement au niveau scolaire, pour les enfants et les jeunes, chaque jour. Donc c'est un phénomène qui est très important à traiter pour les réponses et pour prévenir.
Selon l'étude, un tiers des élèves âgés de 11 à 13 ans disent avoir été harcelés au cours des mois précédents et 8% d'entre eux évoquent des harcèlements quotidiens. La violence et le harcèlement à l'école, qu'il s'agisse du harcèlement physique, psychologique ou sexuel, ont un impact négatif sur l'apprentissage de l'élève ainsi que sur sa santé mentale et émotionnelle. Elle naît souvent de rapports de force inégaux renforcés par des stéréotypes.
Retour sur l'actualité, le rapport Situation et perspectives de l'économie mondiale des Nations Unies pour l'année 2017, publié ce mardi. Selon le document, l'économie mondiale n'est pas encore sortie de sa période de lente croissance, caractérisée par des investissements limités, et ce, malgré la reprise économique modeste annoncée pour 2017-2018. Pour en savoir plus, Jérôme Longuet a tendu son micro à Sergio Vieira, économiste au Département des affaires économiques et sociales de l'ONU.
Les aspects les plus importants, c'est déjà que l'économie mondiale continuera sur une tendance de croissance lente. En 2016, on a eu une croissance de 2,2%, ce qui est la croissance la plus lente depuis 2009. Et il y aura une légère amélioration en 2017 de 2,7% et en 2018, 2,9%. Juste pour donner une perspective sur ce que cela veut dire sur le PIB par tête, cela équivaut à une croissance de 1,5% du PIB par tête en moyenne pour la période 2016-2018. Et si on compare ça avec la période 98 et 2007, lorsque le produit par tête était de 2,1%. Donc il y a clairement une grande différence. Le rapport avance également quatre raisons principales pour cette reprise faible. D'une part, la reprise économique dans les pays développés reste modeste. La demande faible dans ces pays et le ralentissement de l'économie chinoise mènent à une tendance lente du commerce international, ce qui affecte forcément les pays en développement. Les investissements privés et publics restent limités, notamment dans les pays développés en raison des restrictions budgétaires, ce qui mène forcément à moins d'investissements en infrastructures et dans les domaines sociaux, mais aussi le climat d'incertitude politique qui ne favorise pas l'investissement privé.
Quelle est donc pour l'Afrique la situation? Comment se porte l'Afrique?
L'Afrique dans son ensemble a connu une année 2016 difficile, avec une croissance de 1,7% en 2016, mais une reprise modérée est espérée pour la croissance économique en 2017 de 3,2% et en 2018 de 3,8%. Alors cette amélioration sera possible grâce à une augmentation des prix des matières premières, ce qui bénéficiera forcément les pays exportateurs de ces produits de base, et ceci atténuera forcément la pression sur les balances fiscales et l'endettement externe de ces pays, donnant plus de marge de manœuvre à des politiques de relancement économique. Un autre aspect important sera la reprise de la demande interne dans les pays qui disposent d'une demande interne beaucoup plus vaste, qui vont continuer surtout avec des grands projets d'investissement en infrastructures.
Alors, au-delà des constats, donc on a vu les conclusions, au-delà des prospectives, quelles sont les recommandations que contient ce rapport donc pour 2017?
Alors, au niveau des recommandations, il faut rendre tout d'abord la croissance mondiale plus forte. Et pour cela, il faut augmenter l'investissement dans des domaines qui peuvent mener à des transformations technologiques. Il y a une nouvelle phase de croissance. Par exemple, investir dans les domaines de recherche et innovation, investir en éducation et l'infrastructure, ce qui pourrait promouvoir la protection environnementale et la croissance de la productivité. Il faudrait aussi qu'il y ait plus d'efforts de coordination politique entre pays, avec une approche politique plus équilibrée, tant en termes de politique monétaire et budgétaire, mais aussi afin de réduire les incertitudes dans le contexte international.
Et c'est avec Sergio Vieira que se referme ce journal radio de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 en ce mardi 17 janvier. C'est Alexis Gagnon au micro dans l'émission Le Débrief avec vous jusqu'à 17h. Un petit élément d'info supplémentaire pour compléter le bulletin météo d'un petit peu plus tôt. Alors, on a un avertissement de vent fort qui vient tout juste d'être déposé sur le portail d'Environnement Canada à l'adresse météo.gc.ca. Donc, pour compléter votre information, on y reviendra donc en fin d'émission avec un petit point météo là-dessus. Donc des vents forts pouvant causer des dommages, c'est l'avertissement que livre Environnement Canada sur son portail météo.gc.ca pour les prochaines heures. Alors, on se concentre sur les nouvelles provinciales. On va attaquer les nouvelles de Colombie-Britannique. Ça commence avec le compte-rendu d'un article du New York Times qui a fait beaucoup de bruit. C'est rapporté par Pierre Martineau sur le portail sympatico.ca. Un article du New York Times souligne le laxisme des règles de dons politiques en Colombie-Britannique. Alors, c'est rapporté en date du 16 janvier, donc hier, sur le portail sympatico.ca. Le financement des partis politiques en Colombie-Britannique, où les règles sont parmi les plus laxistes au pays, soulève l'intérêt du prestigieux New York Times. Le titre de l'article est d'ailleurs sans équivoque. La Colombie-Britannique, le Wild West en matière de financement politique au Canada. La province de l'Ouest n'a pas de limite en matière de dons politiques et ceux-ci peuvent provenir autant de syndicats, d'entreprises que de pays étrangers, comme la Chine et les États-Unis, par exemple. Ces règles ne sont pas permises au fédéral, donc du côté de la politique fédérale à l'échelle du pays. Une conséquence de la commission d'enquête sur le scandale des commandites il y a une dizaine d'années. Alors, dans cet article du New York Times, l'historien Nicholas Kenny de l'Université Simon Fraser dans la région de Vancouver rappelle que l'Ontario vient justement de resserrer ses règles en matière de financement politique, ce qui donne, dit-il, à la Colombie-Britannique l'image d'un endroit reculé où les choses se font un peu n'importe comment, sans trop de surveillance, avec évidemment le parti au pouvoir qui semble en tirer bénéfice. De l'avis de cet historien, l'apparence de conflit d'intérêts est aussi importante en politique qu'un réel conflit d'intérêts. À titre d'exemple, l'entreprise Kinder Morgan, dont le pipeline vient de recevoir l'approbation du gouvernement libéral de Justin Trudeau, a versé plus de 720 000 $ au Parti libéral de Christy Clark au cours des dernières années. Et donc, le compte-rendu du journaliste de Sympatico rappelle également que l'organisme Démocratie en surveillance, dont le nom anglais est Democracy Watch, conteste actuellement devant les tribunaux la décision du commissaire au conflit d'intérêts qui estime que la première ministre Christy Clark n'est pas en situation de conflit d'intérêts en acceptant un salaire pour son travail de collecte de fonds pour le parti. En effet, Christy Clark reçoit un salaire de son propre parti et touche des commissions lors des soupers de financement. Et dans cet article du New York Times que j'ai lu tout à l'heure, cet après-midi, on apprend également que le commissaire au conflit d'intérêts de la Colombie-Britannique, son fils travaille au bureau de Christy Clark. Alors, c'est assez intéressant d'apprendre ça. Et l'apparence de conflit d'intérêts est assez énorme, en effet. Alors, c'est un dossier qu'on continue de suivre. On est évidemment dans une année électorale. Les Britanno-Colombiens iront aux urnes cette année, au mois de mai. Alors, évidemment, ça va revenir dans le débrief. Autrement, on va du côté de l'éducation à présent. Vous vous souviendrez que la province a annoncé le 5 janvier, en tout début d'année, avoir conclu un accord avec la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, la BCTF, en débloquant une enveloppe de 50 millions de dollars pour embaucher immédiatement de nouveaux professeurs. Donc, cette somme mise à disposition pour l'année en cours équivaut à 1100 nouveaux enseignants, dont l'embauche et le nombre exact par district scolaire doivent être déterminés au cas par cas. Donc, cette annonce du 5 janvier survenait après une importante victoire de la BCTF. En novembre dernier, la Cour suprême du Canada avait en effet donné raison à cette fédération d'enseignants dans le dossier du droit de négocier le nombre d'élèves en classe et la composition des classes. Donc, c'était vraiment la pomme de discorde entre les enseignants et la province. Alors, on a de nouvelles fraîches, des nouvelles fraîches à propos de ce dossier qui opposait le gouvernement et les enseignants. Alors, aujourd'hui, dans le Times Colonist, le média de Victoria, on apprend que l'embauche de professeurs a débuté. Donc, ces 50 millions de dollars sont mis à contribution et le processus d'embauche est amorcé. Alors, c'est une excellente nouvelle. Il y a 500 nouveaux professeurs qui seront dans des classes d'école dès le mois prochain, selon cet article. Environ une moitié de la somme des 50 millions qui avait été attribuée le 5 janvier sera consacrée à la région vancouveroise, apprend-on. et l'autre moitié sera consacrée au reste de la province. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur les dernières nouvelles entourant cette injection de nouveaux fonds, 50 millions de dollars dans le système d'éducation, vous pouvez vous rendre sur le portail du Times Colonist. Le titre de la manchette, BC starts hiring new teachers, biggest shares goes to Vancouver Region. Voilà, donc on se transporte à nouveau du côté de l'énergie et du pipeline Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan. Trois nouvelles Premières Nations annoncent leur intention poursuivre Kinder Morgan et le gouvernement fédéral. C'est ce que nous apprend le portail de CBC aujourd'hui. Donc, trois nouvelles démarches judiciaires, trois nouvelles poursuites devant les tribunaux. Il s'agit de la bande indienne de Coldwater, à proximité de Merritt, dans l'intérieur de la province, de la nation Tsleil-Waututh, excusez-moi pour la prononciation qui est probablement très mauvaise, ainsi que la nation Squamish. Donc, les trois nations ont tenu une conférence de presse commune aujourd'hui à Vancouver et ont déclaré qu'elles ne consentaient pas au passage du pipeline Kinder Morgan dans sa version augmentée. On parle évidemment de l'expansion d'un pipeline existant. Donc, ces trois nations ne sont pas d'accord pour l'expansion projetée par la compagnie Kinder Morgan sur leur territoire. Et l'un des chefs présents a indiqué que ce combat était comparable à celui de Standing Rock. Alors, si vous avez suivi l'actualité américaine, vous savez que Standing Rock, c'est une réserve Sioux, c'est un territoire Sioux où devait passer un pipeline, justement, le North Dakota Access Pipeline, de son petit nom. Et finalement, le trajet a été revu suite aux pressions de la société civile et des Premières Nations dans cette région des États-Unis. Donc, les nations Sioux de cette région craignaient pour leurs ressources en eau potable et pour leurs terres ancestrales sur lesquelles devait passer le tracé du dit pipeline. Alors, l'un des chefs qui était présent aujourd'hui à la conférence de presse a comparé le combat qui est livré actuellement contre Kinder Morgan à celui des Sioux de Standing Rock. Donc, un autre dossier à suivre, bien sûr, dans le débrief. Autrement, du côté du portail francophone de la Société Radio-Canada et dans les pages consacrées à la Colombie-Britannique, on nous parle d'un risque d'avalanche dans le corridor Sea to Sky. Donc, Sea to Sky, c'est une route qui mène vers Whistler et un petit peu plus haut. De la neige lourde suivie d'un adoucissement des températures augmente le risque d'avalanche dans certaines parties de la Colombie-Britannique. Avalanche Canada a lancé un avertissement pour mardi et mercredi concernant les montagnes de la côte sud le long du corridor de la route Sea to Sky jusqu'à Whistler. Tentez de rester sur des terrains sécuritaires, a indiqué Avalanche Canada à la population. Les contrôleurs en cas d'avalanche fermeront l'autoroute 99 dans les deux directions à 50 km au nord de Pemberton, dans le coin de Duffy Lake, entre 10h et 13h mardi, a-t-on pu lire sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. Donc, c'est déjà commencé. Des mesures restrictives ont été prises suite au danger d'avalanche qui a été constaté. Sinon, toujours sur le portail de Radio-Canada, ouverture des mises en candidature pour le programme des premiers acheteurs en Colombie-Britannique. Un programme du gouvernement de la Colombie-Britannique accepte les candidatures d'acheteurs d'un premier logement depuis lundi. Ceux-ci pourront obtenir un prêt pouvant s'élever jusqu'à 37 000 $ pour financer leur mise de fonds. L'achat du logement doit être effectué après le 15 février 2017 pour être admissible à ce programme. La première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark, a annoncé qu'un deuxième prêt comme celui-ci pourrait aider les premiers acheteurs à se tailler une place dans un marché immobilier très dur, entre guillemets. Ses détracteurs, donc les détracteurs de la première ministre, ont dénoncé, toutefois, un programme exposant les acheteurs à une dette trop importante et un programme qui ne favorise qu'un groupe très restreint de personnes qui sont déjà privilégiées. Donc, vous trouverez cet article sur le portail de Radio-Canada. Ouverture des mises en candidature pour le programme des premiers acheteurs en Colombie-Britannique. Et on apprend dans le fil de la presse canadienne finalement qu'il y a eu distribution de tracts suprémacistes blancs dans la région d'Abbotsford. Le service de police d'Abbotsford en Colombie-Britannique demande l'aide de l'équipe d'enquête sur les crimes haineux de la province pour faire la lumière sur la distribution de tracts suprémacistes blancs qui dénigrent Martin Luther King. Les policiers affirment que les documents contenant des écrits du Ku Klux Klan ont été placés à l'intérieur de sacs de plastique et lancés d'un véhicule devant plus de 70 résidences. Ça s'est passé au cours du week-end. L'agent Ian McDonald a indiqué que les tracts avaient été distribués pour coïncider avec le jour anniversaire de Martin Luther King aux États-Unis. Les tracts prétendent que l'icône de la lutte contre la ségrégation raciale, lauréat du prix Nobel de la paix, ne mérite pas une telle commémoration. Le document présente une déclaration des soi-disant chevaliers loyaux blancs du KKK, selon l'agent McDonald, qui n'a pas voulu aller dans le détail du contenu du tract. Les policiers ont les images d'une caméra de sécurité montrant un véhicule Dodge Ram qui aurait distribué les tracts. Les sacs de plastique sont actuellement examinés pour trouver des empreintes digitales. L'agent McDonald a rappelé qu'il y a eu un incident similaire en octobre dernier. Et même s'il ne semble pas y avoir de problème de racisme dans ce secteur, a-t-il dit, il y a manifestement un problème avec quelques petits idiots, a-t-il estimé. Donc, c'est rapporté dans les colonnes de la presse canadienne. Distribution de tracts suprémacistes blancs dans la région d'Abbotsford. On fait une petite pause musicale. Nous allons écouter une formation qui s'appelle Bon Débarras. Et la pièce s'intitule All You Can Beat. On se retrouve dans quelques minutes pour les nouvelles. Les nouvelles du jour. À tout de suite.
Les oreilles qui oublient. M'en taper sur du tapis, si mes pieds te cassent, c'est sweet, oui.
Arrête ton tapis toyé si tu peux pas taper du pied, oui.
Quand le ciel à terre te pique, puis bas la terre, le ciel te chauffe.
Quand le ciel à terre te pique, puis bas la terre, le ciel te chauffe.
La tête, le ciel, votre sort de tempête, ni pied, la terre a déterré mes ancêtres. Le son se fait, le drame, nature, mes pauses s'éloignent. Puis là, je fais dur. For all dans les airs, and all you can beat sur la terre.
Quand le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe. Quand le ciel, la terre te pique, puis pas le fer, pas le qui chauffe.
Y'a de la frime dans le jeu de mes sons, puis y'a de l'abîme à chaque coup de batteur. Du cœur au talon, du cœur au talon. Don't cheat un gars qui a du poil au menton, un bon soldat qui a de la suie dans les talons, du haut de ses pas, qui a de la fuite dans les idées, agigué à volonté, au manquait de ses deux pieds, solitaire, à bout de ses nerfs, au lieu de se taire, au lieu de s'en faire, puis d'avoir de l'air. Juste assez fou, braque et braque les deux semelles enragées sur la tente du trotteur. La trouille au ventre jusqu'aux couilles de ses pleurs.
Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe, chauffe, chauffe. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te sauve. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe, chauffe, chauffe. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te sauve. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe.
Gratte le ciel, la terre, le ciel te chauffe.
êtes toujours dans l'émission Le Débrief à 16h31. Merci de nous écouter en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 18 janvier. On a 8 degrés au centre-ville actuellement avec un avertissement de vent en vigueur pour les prochaines heures. Nous allons nous tourner vers les nouvelles du jour et la principale nouvelle du jour vient tout juste de tomber cet après-midi. Barack Obama gracie l'ex-soldat Chelsea Manning qui avait été condamné dans l'affaire WikiLeaks. Alors, je vous lis quelques lignes de la dépêche parue sur le portail France Info. Barack Obama a commué la peine de Chelsea Manning, condamné à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site WikiLeaks. L'ancienne militaire transsexuelle et qui s'appelait auparavant Bradley Manning sera libérée en mai, a fait savoir la Maison-Blanche mardi 17 janvier. En prison, Chelsea Manning avait déjà tenté à deux reprises de mettre fin à ses jours. Le 30 juillet 2013, Bradley Manning avait été reconnu coupable de 20 chefs d'accusation et principalement d'espionnage, fraude et vol de documents diplomatiques et militaires confidentiels par la cour martiale du tribunal de Fort Meade aux États-Unis. L'ancien soldat de 25 ans avait en revanche été acquitté pour le chef d'accusation le plus lourd, soit intelligence avec l'ennemi. Au total, Barack Obama a gracié 64 détenus et commué les peines de 209 autres depuis son arrivée en janvier 2009 à la Maison-Blanche, qu'il quittera ce vendredi. Le président américain a gracié 212 condamnés et a commué 1385 peines, soit davantage que n'importe quel autre occupant du bureau ovale précédemment. Alors, cette nouvelle, évidemment, est tombée cet après-midi. Elle a connu tout de suite beaucoup d'échos. Les commentaires ont fusé sur les médias sociaux. Il faut se rappeler que Chelsea Manning est un lanceur d'alerte, qu'il a été défendu par des organismes comme Human Rights Watch, Amnesty International et de nombreux militants des droits de la personne. Il a fait connaître la situation en Irak, qui découlait de l'occupation américaine. Il avait notamment permis de connaître une vidéo dans laquelle on voyait un hélicoptère américain abattre un journaliste de Reuters, de l'agence Reuters. Donc c'est une des vidéos qui avait vraiment frappé l'imagination au moment de la fuite d'informations qu'il avait orchestrée auprès de WikiLeaks. Alors, Chelsea Manning sera libre en mai. Et plusieurs observateurs font observer qu'il a vraiment fait avancer le débat sur les droits de la personne et sur la guerre au Moyen-Orient. Donc c'est une nouvelle qui va continuer d'avoir des répercussions au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. Donc Barack Obama gracie l'ex-soldat Chelsea Manning qui avait été condamné dans l'affaire WikiLeaks. Autrement, une grande nouvelle aujourd'hui, on attendait bien sûr le discours de Theresa May, la première ministre britannique, sur la question du Brexit. Ce discours était attendu par toute l'Europe. Donc c'est un discours qui, bien sûr, devait donner le programme sur les intentions de la Grande-Bretagne suite au référendum de l'année dernière, référendum au cours duquel les Britanniques avaient voté en faveur du Brexit, du British Exit, donc de la sortie du pays de l'Union européenne. Et effectivement, Theresa May s'est exprimée aujourd'hui. Et je vous cite quelques lignes d'abord du papier que publie le journal Les Affaires, lesaffaires.com, qui est une publication montréalaise. Le Brexit signifie la sortie du marché unique, a annoncé mardi la première ministre britannique Theresa May, en défendant une rupture claire et nette avec l'Union européenne, l'UE, afin de retrouver le contrôle de l'immigration. Le discours de Theresa May, très attendu après des mois à manier le flou, a été salué par les eurosceptiques et a immédiatement fait remonter la livre sterling, donc la British Pound, qui avait plongé par anticipation dans la journée de lundi hier. Le Royaume-Uni ne peut pas continuer à faire partie du marché unique, a indiqué la première ministre Theresa May, en dévoilant ses priorités pour les négociations à venir. Et là, je vous transporte du côté du portail Mediapart qui a analysé un petit peu plus profondément cette conférence de presse qu'a donnée la première ministre de Grande-Bretagne. Theresa May, peut-on lire dans le titre de l'article, plaide en faveur d'un Brexit clair et net. Donc c'est sur Mediapart sous la plume de Ludovic Lamont. 7 mois après son arrivée au pouvoir, la chef du gouvernement britannique a abattu ses premières cartes. Theresa May plaide pour une sortie du marché unique européen comme de l'union douanière et menace de recourir au dumping fiscal si les Européens durcissaient le ton. Donc on y avait touché déjà dans l'édition d'hier, souvenez-vous, un article du Monde que je vous avais cité. Theresa May, continue cet article, a levé une première incertitude majeure à l'approche des négociations du Brexit lors d'un discours très suivi mardi 17 janvier. Elle s'est rangée à l'avis des Européens en reconnaissant que le Royaume-Uni perdrait son accès au marché unique une fois sorti de l'Union. C'est ce qu'elle a résumé d'une formule « Ce sera un Brexit clair et net », a-t-elle promis devant un parterre d'ambassadeurs européens rassemblés à la Lancaster House, un manoir du 19e siècle dans l'ouest londonien qui accueille souvent des réunions internationales. Mais la conservatrice, donc Theresa May, soufflant le chaud et le froid, a aussi prévenu Londres que Londres ne resterait pas sans rien faire si les 27 membres de l'Union européenne cherchaient à punir les Britanniques lors des négociations à venir. Des voix s'élèvent pour un accord punitif à l'encontre du Royaume-Uni afin de décourager d'autres pays qui voudraient emprunter le même chemin, a-t-elle dit. Ce serait un acte calamiteux d'automutilation pour les États d'Europe, a déclaré Theresa May. Donc le bras de fer se poursuit. La Grande-Bretagne menace de procéder à une sorte de dumping fiscal, oui, des politiques fiscales qui nuiraient à la cohésion de l'Europe. On va voir où ces négociations vont mener. Bien sûr, ce sera très lent. On va observer ça au cours des prochains mois, mais il y a le Parlement britannique qui va voter sur l'issue des négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, et ce Parlement britannique va voter seulement au printemps 2019. Alors vous voyez, tout se passe au ralenti, peut-être un peu trop lentement de l'avis des électeurs qui ont voté le 23 juin dernier. Enfin, ce sont les aléas de la politique européenne. Et finalement, dans ce bloc nouvelles du jour, je tiens à vous signaler un article paru dans les pages du journal Le Devoir, et ça concerne la présence du plastique partout dans nos océans. Et le titre en dit long, « Plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050 ?» Point d'interrogation. Le constat a de quoi susciter des inquiétudes, écrit le journal Le Devoir. Si rien n'est fait pour réduire la pollution provoquée par l'accumulation de plastique dans les océans, ces derniers contiendront une masse plus importante de plastique que de poissons d'ici 2050. Des multinationales ont d'ailleurs décidé lundi d'appuyer un appel à l'action dans le cadre du Forum économique mondial de Davos. C'est la navigatrice britannique Ellen MacArthur, connue pour avoir battu le record du monde du tour du monde à la voile en 2005, qui a d'abord lancé cet appel en faveur d'une meilleure utilisation et d'un meilleur recyclage du plastique, une matière omniprésente dans nos vies quotidiennes. De grandes entreprises comme Unilever, Danone, Dow Chemical ont décidé de faire écho à cet appel à la veille de l'ouverture du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Alors, quand des transnationales commencent à s'emparer du dossier, c'est que vraiment l'heure est grave. Vous trouverez cet article dans les pages du Devoir. Plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Point d'interrogation. Alors, on fait une petite pause avec un intermède musical. Au retour, je vous propose de faire le tour de quelques éditoriaux. À tout de suite. We'll be right back. Alors, je tiens à vous signaler dans cette revue de presse des éditos une chronique que publie Benjamin Vachet. C'est un journaliste à l'emploi de TFO. TFO, c'est la chaîne publique francophone de l'Ontario, qui a des visées pan-canadiennes d'ailleurs, beaucoup d'ambition pour l'ensemble du Canada, pas seulement l'Ontario. Donc, il y a un blog tenu sur le portail de TFO par Benjamin Vachet. Et aujourd'hui, Benjamin Vachet consacre sa chronique au bilinguisme et à l'attention qu'accorde le premier ministre Justin Trudeau au bilinguisme. Alors, je vous lis tout de suite, puisque nous sommes pressés, quelques lignes de cette chronique de Benjamin Vachet. Les propos controversés de Justin Trudeau sur le bilinguisme officiel de la ville d'Ottawa, notre capitale, pendant le temps des fêtes, traduisent-ils sa vision des langues officielles, demande Benjamin Vachet. Les avis des observateurs interrogés divergent, mais ils s'accordent à dire que le leadership politique manque dans ce dossier actuellement. Justin Trudeau voit les langues officielles de manière instrumentale, un peu comme les voyait Stephen Harper, commente le stagiaire postdoctoral à la chaire de recherche sur la francophonie, Martin Normand. Pour Justin Trudeau, les langues officielles, c'est un outil de communication utile parmi d'autres, mais pas un vecteur identitaire pour assurer la cohésion du pays, estime cet étudiant postdoctoral. Qu'a-t-il fait de plus que Stephen Harper, demande-t-il, des consultations? Le gouvernement conservateur aussi en avait fait. Rencontrer les représentants des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Les ministres conservateurs aussi l'avaient fait. Cet étudiant de la chaire de recherche sur la francophonie à l'Université d'Ottawa se demande finalement quelles sont les différences et il n'en voit pas. Alors le texte continue. En octobre 2015, l'élection de Trudeau-fils avait pourtant suscité beaucoup d'espoir chez les francophones à l'extérieur du Québec. Mais après plus d'un an au pouvoir, force est de constater que les langues officielles n'ont pas grande place dans le champ lexical du premier ministre. Justin Trudeau n'est pas idéologiquement contre les langues officielles, comme pouvait l'être, par exemple, Stephen Harper, qui avait une vision très économique et financière des langues officielles, mais pour l'instant, on ne l'entend tout simplement pas sur cette question, hormis récemment à propos de la ville d'Ottawa et du bilinguisme de la ville. Et ça, ce sont les propos du cofondateur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique, Frédéric Bédard, qui est également interrogé dans cet article. C'est décevant, dit Frédéric Bérard, qu'il ne suive pas les traces de son père, qui a été un des plus grands défenseurs de la francophonie au Canada. Et le professeur de sciences politiques au campus de Saint-Jean, en Alberta, quant à lui, Frédéric Boily, estime que les attentes envers Justin Trudeau étaient peut-être trop élevées. Alors, Frédéric Boily, qui enseigne au campus de Saint-Jean, rappelle l'intervention controversée du premier ministre en 2007 à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, au cours de laquelle, il n'était pas premier ministre à cette époque, évidemment, au cours de laquelle il avait remis en question l'existence d'un système scolaire francophone distinct et appelé à dépasser le bilinguisme. Il avait été forcé de s'excuser, rappelle Frédéric Boily, mais je pense que cela trahit sa vision des choses. Il semble mal percevoir les menaces qui pèsent sur le français au Canada. Donc un texte très intéressant avec des commentaires d'universitaires qui consacrent leur carrière à observer justement et à étudier les droits linguistiques, la question des langues officielles partout au Canada. Donc c'est sur le portail de TFO, tfo.org, dans la section ONFR, sous la plume de Benjamin Vachet. Alors on se rend de ce pas à l'interview du jour. Je vous le disais d'entrée de jeu au début de l'émission, je m'entretiens aujourd'hui au téléphone avec Marc Labelle qui travaille au ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique et nous allons parler d'un programme de perfectionnement du français pour les jeunes francophones de la province. C'est tout de suite dans le débrief, restez à l'écoute. Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. C'est le moment de l'interview du jour. J'ai le plaisir de m'entretenir au téléphone aujourd'hui avec Marc Labelle, coordonnateur provincial au Bureau de l'éducation en français au ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique. Bonjour, Monsieur Labelle.
Bonjour.
On parle aujourd'hui du programme Destination Click. C'est un programme pédagogique d'enseignement du français, c'est ça?
Oui, exactement.
Donc, ça s'adresse à quel type de clientèle, ce programme pédagogique de français?
Alors, le programme Destination Click vise les élèves de la 8e et 9e année, des élèves dont le français est la langue première. Alors, c'est des cours de français intensifs, mais c'est surtout un cours de perfectionnement du français. Mm-hmm. Mais en plus de ça, c'est aussi une occasion pour des francophones de partout au pays de se rencontrer, de partager, de voir un peu comment on vit notre francophonie ailleurs au pays.
Donc, on parle d'élèves qui ont entre 12 et 15 ans à peu près?
Oui, en général, oui. D'habitude, c'est la moyenne, c'est 14-15 ans, absolument.
D'accord. Donc, Destination Click. Est-ce que ça prend la forme d'un genre de camp d'été? Est-ce que ça se passe en marge de l'école? Est-ce qu'il y a un lieu particulier, une ville hôtesse, devrais-je
oui.
dire?
Oui, absolument. Alors, Destination Click, ça se passe pendant l'été. Alors, ça permet aux participants de finir leur année scolaire. Et dès le début juillet, c'est là où les sessions débutent. Cette année, alors en 2017, on a des sessions à l'Université d'Ottawa, de même qu'à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick et à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et de même qu'un programme à Rimouski. Alors, il y a 4 sessions qui se passent au mois de juillet. Et c'est des occasions pour ces jeunes, comme je disais, de se rencontrer dans un environnement francophone.
D'accord. Donc, perfectionner son français, conserver la maîtrise de sa langue, c'est à peu près les objectifs. Tout ça dans un environnement entouré d'amis, faire des nouvelles rencontres.
Oui.
D'accord.
Absolument. Puis, on parle beaucoup de l'aspect pédagogique de Destination Click. Et en réalité, une journée typique,
oui.
Ça passerait un peu en matinée, on aurait les cours. Alors, ça serait un cours parfois c'est des cours de littérature, souvent c'est des cours de français écrit, de création littéraire.
Oui.
Et en après-midi, c'est là où c'est plus de l'usage social de la langue. Alors, on a des ateliers de différentes sortes. Ça pourrait être des ateliers de vidéo, ça peut être des ateliers de cuisine ou d'escalade. Ça dépend des sessions. Alors, à l'Université d'Ottawa, par exemple, ils vont avoir un atelier de création de vidéo, alors qu'à Moncton, ça pourrait être des ateliers de danse, par exemple.
D'accord.
Et il y a aussi des activités sociales, culturelles et sportives. Les participants prennent part à des visites guidées, des excursions dans la région. Alors, c'est vraiment... en matinée, on a la partie pédagogique et le reste de la journée, c'est vraiment l'usage social...
On s'amuse.
..de la langue française. Oui, absolument.
D'accord. Bon, alors, on n'enrichit jamais trop son vocabulaire. C'est bon aussi de maintenir sa grammaire bien souple, bien huilée, j'ai envie de dire. On remarque beaucoup, hors Québec, dans les environnements minoritaires, des petits glissements grammaticaux, syntaxiques. Les jeunes, évidemment, sont entourés par la langue anglaise et la langue française en souffre un petit peu. Donc, c'est une excellente initiative. Le génie dans tout ça, c'est la bonne idée dans tout ça, c'est d'avoir instillé un petit peu de récréatif, de loisir. Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce que c'est un concours? Est-ce qu'il suffit de remplir quelques formulaires en ligne? Est-ce que c'est très compliqué?
C'est pas trop compliqué. Alors, il suffit de se rendre au site web www.destinationclick.ca.
Oui.
.ca, Et à partir de là, on remplit une demande en ligne, on doit l'imprimer, la faire signer. Et ensuite, en Colombie-Britannique, il suffit de la télécharger sur notre site web du ministère de l'Éducation. Et c'est fait. Il n'y a pas de coût en avance. Alors, on fait demande et puis les places sont assignées par un tirage au sort qui a lieu habituellement au mois d'avril.
D'accord.
À partir de là, on va savoir est-ce que le tirage au sort a tiré mon nom pour aller à Moncton ou à Ottawa ou à Trois-Rivières. Alors, c'est là où on sait.
Tout frais.
À partir de là, on peut commencer à faire nos plans de voyage.
Formidable. Tout frais payé? Est-ce que c'est subventionné? Est-ce que les frais